Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
C'est pas une surprise, on s'y attendait plus ou moins. On avait pris les masques de toute façon. C'est se protéger nous, c'est se protéger les autres.
De plus en plus de cas de contamination et l'inquiétude des départements. Alors que l'obligation de porter un masque en extérieur a été supprimée le 17 juin dernier, ils sont très nombreux à le réimposer en extérieur.
Valérie Pécresse veut restaurer la fierté française. La présidente de la région Île-de-France annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle.
À l'affaire Pegasus agite l'Élysée alors qu'un des téléphones d'Emmanuel Macron a été ciblé par le logiciel espion. Le président a réuni ce matin un conseil de défense extraordinaire.
Alors que la flamme olympique sera rallumée demain à Tokyo, les footballeurs français ont fait leur entrée en lice. Un premier match malheureusement raté face au Mexique. Score final 4 buts à 1.
La bourse de Paris termine ce soir dans le vert, plus 0,26% pour le CAC 40 à 6481 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry, c'est le retour des orages en Bretagne après cette belle séquence de beau temps. Les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan ont été placés en alerte orange, donc pour des orages parfois violents qui vont circuler en deux temps demain. Précision et détails à la fin du journal.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement l'a annoncé en début de semaine, la quatrième vague redoutée balaye déjà la France et le nombre de nouveaux cas de contamination augmente de jour en jour.
Il y en avait 21 000 de plus hier sur 24 heures. Une explosion en raison du variant Delta et face à cette nouvelle flambée, de nombreux départements ont décidé de réimposer le port du masque en extérieur, Pierre Herbulot.
Saint-Tropez, hier, Toulon, 58 communes du Var sont concernées. Décision de la préfecture face à une situation qui se rapproche dangereusement de l'incontrôlable. 16 regroupements de cas recensés, des villes avec un taux d'incidence de plus de 900, c'est 18 fois plus que le seuil d'alerte. Et puis, des services de réa quasi saturés, la conséquence d'un cocktail estival brûlant. Relâchement, plus tourisme, plus variant Delta. Ça, c'était pour le Var, mais partout, des décisions similaires sont prises. Le masque à l'extérieur revient dans l'Hérault, dans 45 communes des Charentes-Maritimes, 22 du littoral vendéen, 19 d'Ariège. Parfois, ce sont des zones denses qui sont visées dans des villes touristiques comme Deauville, Saint-Malo, Lille ou Bordeaux. Restrictions prolongées aussi dans les Landes avec une jauge à 5000 personnes pour les événements, plus une interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Enfin, le couvre-feu est toujours maintenu à 23h dans les Pyrénées-Orientales. En Haute-Corse, le pass sanitaire sera même expérimenté de manière anticipée demain dans certains bars et restaurants.
Merci Pierre Herbulot. La Charente-Maritime est l'un des départements les plus touchés par la hausse du nombre de cas de contamination. Le maire de La Rochelle a également demandé le retour du masque obligatoire en extérieur. Laura Taouchanov, vous êtes à Châtelaillon-Plage pour Europe 1. C'est juste à côté de La Rochelle. Cette commune qui est également concernée par la restriction du port du masque en extérieur. Pour le moment, la mesure n'est pas très suivie.
Et oui, il y a ceux qui se coupent du monde pendant leurs vacances et n'étaient tout simplement pas au courant. Vous saviez qu'il fallait remettre le masque ?
Absolument pas, j'étais pas du tout au courant.
C'est moi qui viens de l'apprendre à Céline, une touriste originaire de Metz, qui va du coup profiter de la plage, le seul endroit où le masque n'est pas obligatoire.
Je pense que c'est nécessaire, mais c'est trop tout ou rien de toute façon. Donc, ils ont enlevé d'un coup toutes les restrictions, enfin du moins les plus grosses, pour les remettre 3 semaines après en se rendant compte que ça allait pas. Ça n'a pas été assez dégressif là-dessus. Maintenant, tant pis, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Mais ça m'arrange pas beaucoup, sous 35 degrés, de porter le masque.
Et ça tombe plutôt mal pour la deuxième semaine de vacances de Corinne, mais malgré la chaleur, cette Normande reprend ses vieilles habitudes.
On était de toute façon au courant que potentiellement ça allait reflamber. Donc c'est pas une surprise, on s'y attendait plus ou moins. On avait pris les masques de toute façon, c'est se protéger nous, c'est se protéger les autres. Et puis bah, disons que c'est une crise qui va passer, on va finalement y arriver.
Pour les locaux, l'arrivée des touristes est une bonne nouvelle pour l'économie, mais à condition qu'ils respectent les règles, explique Régine.
Ce sont des gestes citoyens, c'est une contrainte. On vit en société, et pour moi, une société, elle a des règles.
Des règles qui se voient depuis hier, les panneaux obligation de porter le masque ont refait leur apparition sur la promenade du front de mer.
Alors, à Taouchanoff, à Châtelaillon-Plage, pour Europe 1, en marge des restrictions qui reviennent département par département, les débats sur le pass sanitaire se poursuivent à l'Assemblée, s'éternisent. L'adoption du texte pour la fin de semaine s'éloigne donc progressivement. Les députés viennent de voter, noter contre le pass sanitaire pour les résidents des EHPAD et leurs visiteurs.
Et notez qu'en Europe, 200 millions de personnes sont désormais totalement vaccinées contre le Covid-19, ce qui représente plus de la moitié des adultes européens.
On passe à cette information qui est l'information politique de la soirée. Valérie Pécresse affiche très clairement ses ambitions pour 2022. La présidente de la région Île-de-France, réélue en juin dernier, annonce sa candidature à la prochaine présidentielle.
Mais Valérie Pécresse, elle se prononce pour une primaire à droite très largement ouverte. Bonsoir Lou Dragnel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Que souhaite faire Valérie Pécresse et que faut-il comprendre avec cette nouvelle candidature à droite ?
Alors tout d'abord sur la ligne politique, Valérie Pécresse veut remettre le pays en ordre, principalement en matière de sécurité et d'immigration. Elle dénonce l'impasse de la stratégie du « en même temps » d'Emmanuel Macron dans le domaine régalien. Un Emmanuel Macron à qui elle reproche d'avoir fait très peu de réformes. Alors ça, c'est pour le fond. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les candidats potentiels de la droite pour la présidentielle se sont réunis il y a 2 jours pour essayer de s'entendre sur l'organisation d'une primaire sans pour autant l'acter véritablement. Et donc, en déclarant sa candidature la première, Valérie Pécresse vient de provoquer l'organisation de cette primaire où elle pourrait se retrouver face à Bruno Retailleau ou encore Laurent Wauquiez qui ne se sont pas encore déclarés. Autre enseignement, Valérie Pécresse vient de mettre une très grosse pression sur les épaules de Xavier Bertrand. Car vous savez, le président des Hauts-de-France, qui est déjà candidat à la présidentielle, ne veut pas participer à la primaire et il aimerait beaucoup être le seul candidat de la droite pour la présidentielle. Ce qu'il faut retenir donc, c'est qu'en se lançant, Valérie Pécresse est en train de forcer Xavier Bertrand à la négociation pour trouver une solution, car la droite le sait, si elle ne présente pas un candidat et un seul, elle est presque sûre de perdre en 2022.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1, notez que Valérie Pécresse sera l'invitée du journal de 20h ce soir sur TF1.
L'affaire Pegasus à présent, face aux nombreuses révélations dans cette affaire, l'Élysée, jusqu'à présent très discrète, a décidé de réagir. Emmanuel Macron a réuni ce matin un conseil de défense extraordinaire.
Le président, dont l'un des téléphones aurait été surveillé par le Maroc via le logiciel espion israélien. Officiellement, cette réunion visait à parler cybersécurité, notamment concernant les plus hautes sphères de l'État. Une enquête a été ouverte il y a 2 jours par le parquet de Paris, ce qui a ralenti les investigations entamées par les services de l'État. Alors qu'est-ce qui va se passer à présent, Aude Leroy ?
Bien effectivement, oui, cette judiciarisation de l'affaire a tout stoppé et la consigne donnée aux enquêteurs, c'est d'attendre que le parquet ou un juge d'instruction désigne le service qui sera chargé d'examiner les téléphones portables potentiellement infectés. Alors ça peut être la DGSI, la Sécurité intérieure, ou bien l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des services d'information, qui est aussi responsable de la cybersécurité de l'État, ou encore l'OSIIC, c'est l'opérateur des systèmes d'information classifiés. Il compte 200 personnes environ qui sont entièrement dédiées à sécuriser les communications du président de la République et des ministres. Alors, une fois le feu vert donné par le parquet et surtout la liste des victimes clairement établie, les téléphones qui ont été possiblement infectés par Pegasus seront attentivement examinés sous la houlette d'un officier de police judiciaire. Alors après, ça peut aller vite, très vite, les services sont compétents. Mais comme c'est la justice qui mène le jeu, rien ne doit fuiter, tout doit être tenu secret. Alors, pas d'inquiétude à l'Élysée sur les secrets d'État. Emmanuel Macron est, me dit-on, le plus carré des présidents quand il s'agit au téléphone de parler de sujets sensibles. En revanche, son entourage est moins à l'aise avec l'idée que ses téléphones personnels soient vérifiés. Le chef de l'État a la réputation d'être assez cash dans ses messages, taquin, aux blagues un peu gauloises, paraît-il. En attendant, on a appris il y a 2 heures qu'on vient de lui changer par prudence et son téléphone portable et son numéro.
Aude Leroy, à la suite de cette affaire, le Maroc attaque Forbidden Stories et Amnesty International en diffamation à Paris. On vient de l'apprendre.
18h08, souvenez-vous, c'était le 2 juin dernier, une panne gigantesque paralysait les services d'urgence en France. Près de 12 000 appels n'avaient pas pu être acheminés vers les secours. Un incident qui a causé la mort de 6 personnes.
Le gouvernement a refermé ce matin le chapitre de la panne, de cette panne d'Orange. Il a dévoilé l'audit mené par les services de l'État, un rapport qui met en lumière les défaillances de l'opérateur, Clément Le Saffre.
Oui, l'audit est assez critique vis-à-vis d'Orange, pas tant au niveau de la panne en elle-même qui est due à un bug logiciel dont Orange n'avait pas connaissance. Sur ce point, c'est Italtel, entreprise italienne, qui a conçu l'équipement défectueux qui est mise en cause. En fait, le rapport pointe plutôt du doigt la gestion de la crise par Orange. L'opérateur a mis 2 heures à prévenir les autorités et 3 pour prévoir un dispositif de secours. Par ailleurs, il n'avait pas du tout prévu une panne à l'échelle nationale, un manque d'anticipation qui lui a fait défaut et que critique vivement l'audit. Le gouvernement a donc décidé de saisir l'ARCEP, le gendarme des télécoms, qui va évaluer si l'opérateur a manqué ou non à ses obligations lors de l'incident du 2 juin. Malgré tout, Orange va rester quand même en charge de la gestion des numéros d'urgence, mais il va devoir améliorer sa collaboration avec les autorités compétentes. Contacté par Europe 1, l'opérateur s'engage, je cite, « à revoir ses process et ses organisations en lien avec les services de l'État ». Des exercices de crise seront ainsi organisés régulièrement pour ne rien laisser au hasard. Mais pour ne pas laisser passer la moindre petite faille, le gouvernement souhaite en plus de tout cela durcir le cadre légal de la gestion des numéros d'urgence.
Clément Le Saffre.
Et puis cette affaire qui fait trembler les services de la sécurité intérieure. Un ancien agent de la DGSI avait vendu sur le dark web des données confidentielles.
Oui, l'homme de 35 ans était connu sous le nom de Horus. Il a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme, 2 ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre. Endetté, il avait vendu des informations protégées tirées des fichiers de police, Gladys Laffitte.
Oui, des faits qu'il a en majorité reconnus lors de sa comparution devant le tribunal. C'était en juin dernier. L'ancien brigadier avait expliqué ses agissements par l'appât du gain pour mettre du beurre dans les épinards, je cite. Grâce à ses accès aux fichiers de police, il pouvait revendre des informations protégées comme des adresses, des identités, des géolocalisations téléphonique, mais jamais tiré de la base de données sensible de la DGSI, a-t-il assuré. Ces services coûtaient entre 100 et 300 euros récupérés en bitcoin. Il fabriquait même de faux documents administratifs. À l'audience, il avait promis que jamais cela ne se reproduirait, ce qui n'a visiblement pas convaincu le tribunal avec cette peine prononcée, donc de 7 ans d'emprisonnement, dont 5 fermes. Une peine non aménageable pour prévenir les risques de nouveaux faits, a dit la présidente. Il a donc été emmené en prison. Il a maintenant 10 jours pour faire appel de cette décision. Mais Horus n'en a pas fini avec la justice dans tous les cas, puisqu'il est mis en examen dans un autre volet de l'affaire à Marseille, toujours en cours d'instruction.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Le sport à présent, à 24 heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Les Bleus ont fait leur entrée en compétition aujourd'hui.
Oui, ce sont les footballeurs qui étaient les premiers athlètes français à défendre nos couleurs. Une équipe de France qui a beaucoup souffert face au Mexique et qui a raté son entrée en lice. Il faut bien le dire, Julien Froment.
Oui, ça s'est pas bien passé en effet. Lourde défaite, déroute même de l'équipe de France, 4 à 1. Écoutez d'ailleurs le commentaire de notre confrère mexicain sur le quatrième et dernier but. Un bonheur qui contraste forcément avec la réaction dépitée de l'attaquant français André-Pierre Gignac, lui qui joue au Mexique, aux Tigresses de Monterrey. Il était ce matin face à ses coéquipiers en club et ses amis. Le français qui a eu des mots très durs à l'issue de la rencontre.
Aujourd'hui, on a manqué de tout. On a manqué de concentration, on a manqué d'agressivité dans le bon sens du terme. Eux l'ont mis, on a la chance de ne pas repartir avec 5 ou 6 buts. Donc ce soir c'est une vraie grosse contre-performance. Mais il reste deux matchs, et il faut aller chercher cette qualif, on n'a pas le choix, c'est ce qu'on a envie. Le premier match est passé, on sait ce qu'il nous faut, les ingrédients qu'il faut mettre pour les prochains matchs. Et j'espère que tout le monde va se mettre au diapason parce qu'on n'a pas envie de rentrer en France après le troisième match.
Prochain match pour les Bleus dimanche, toujours à 10h, heure française, face à l'Afrique du Sud, qui, de son côté, s'est incliné 1-0 contre le Japon dans l'autre rencontre du groupe A.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Et puis, notez que Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, sera avec nous depuis Tokyo dans un instant. Ces derniers jours, il a fait très chaud en France. Ça devrait changer, hélas, dans les prochains jours, nous dira Marlène Duré dans un instant.
Oui, et puis, pas toujours facile, cette chaleur quand on est en ville, à l'instar de ces Parisiens qui n'ont pas encore pu partir. Alors, chacun a sa petite astuce pour supporter le soleil. Écoutez.
J'ai installé ma serviette et puis je fais bronzette et c'est très bien parce qu'il y a de l'espace dans ce parc et tout, c'est super. J'ai ramené ma crème solaire, j'ai ramené de l'eau, j'ai ramené mon pchit-pchit pour me mouiller tout le temps.
Alors mon installation, ça ressemble à des claquettes, mon sac à dos, une petite bouteille d'eau et une chaise d'appoint. Mois de juillet, mois d'août, j'aime bien rester à Paris, profiter du beau temps, travailler. Et puis voilà, tous les collègues sont au travail, les amis aussi sont au boulot, donc je suis venu profiter tout seul.
Ben nous, on ne peut pas partir en vacances parce que je vais accoucher bientôt.
Ben oui, le parc c'est l'alternative parce que ma fille de 3 ans a besoin d'avoir un contact avec l'herbe. Elle adore enlever ses chaussures et se rouler dans l'herbe. Donc on vient prendre le goûter dans le parc et elle adore ça.
Je suis coach sportif et entre deux coachings avec le soleil, je me suis posé au parc. Je profite enfin des bonnes températures de Paris. Mais c'est bientôt les vacances quand même.
Oui, c'est bientôt les vacances. Vous aussi, vous avez vos petites astuces.
Je reste au bureau, c'est climatisé. Voilà. Merci à vous Sophie Tusson. On vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo, justement, Marlène Duré, 3 départements bretons sont en alerte orange.
Oui, les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan, donc pour des orages qui vont circuler demain, c'était prévu, c'est confirmé. Des orages parfois violents avec de la grêle possible et des bourrasques de vent pouvant atteindre les 90 km à l'heure. Des orages qui interviennent après une semaine très estivale, dans le contexte des vacances, justement, il faut être très vigilant. On va avoir d'abord une première salve, en début ou milieu de matinée, jusqu'à midi 13h, ensuite une petite pause. Les orages fileront partiront vers l'Angleterre. Et puis il y aura à nouveau de gros orages. C'est la seconde fournée, hein, aux alentours de 16-17 heures jusqu'en début de soirée. L'Ille-et-Vilaine reste en marge. Ça peut déborder sur le Cotentin l'après-midi. Sur le reste du pays, pas mal de nuages près de l'océan, forcément. Le ciel va aussi commencer à se voiler sur le reste du pays. Alors pour autant, le ciel va rester lumineux, il va commencer à faire lourd. Là où il fera encore vraiment beau, c'est le long des frontières du Nord et sur le pourtour méditerranéen. Les températures, elles vont baisser en Bretagne et sur le littoral atlantique, forcément, avec 22 à 27 degrés. En revanche, la chaleur va persister en allant vers l'Est. Hein. Ça sera d'ailleurs la journée la plus chaude de cette séquence de beau temps, surtout dans le Nord-Est. Alors, de la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est et à la Franche-Comté, mais aussi sur le littoral méditerranéen et en Corse, comptez 26 à 32 degrés. Ailleurs, donc 30 à 36 d'une manière générale, jusqu'à 37-38 dans le sud-ouest, notamment dans le Tarn, on pourrait atteindre les 38 degrés.
On va mal dormir encore.
Voilà, et puis ensuite d'autres orages vont prendre naissance du Massif central en allant vers le nord-est. On en reparlera bien sûr pour ce week-end. Et les températures vont vraiment baisser samedi. Et là, c'est pour tout le monde.
Écoutez, c'est la fête. Merci Marlène, 18h30 pour un nouveau point météo.